Bonjour à tous et à chacun. Le dimanche 1er juillet, j'ai abordé dans ma prédication la définition du mot ancien comme responsable dirigeant dans les églises du Nouveau Testament. Je voudrais vous donner quelques mots de contexte et d'explication parce que je me propose aujourd'hui d'aborder en deuxième partie le même sujet. Avec notre pasteur Pierre Marquès et le conseil de l'Église, nous avons pensé utile de proposer à notre Église une réflexion sur ce sujet des anciens. Et cela dans la perspective, si les conditions sont réunies, d'envisager la possibilité de nommer un ou plusieurs anciens dans notre Église. Depuis le départ du pasteur Claude-Henri Gobat, début 2014, Pierre Marquès est le seul pasteur de notre Église et j'en suis le seul ancien officiel. Idéalement, les églises du Nouveau Testament sont dirigées par un collège d'anciens. La dernière nomination d'un ancien, c'était celle de Flavien Solinas. Ça remonte très loin. On peut faire un questionnaire pour vous demander à ceux qui sont anciens parmi nous à quelle époque nous avons fait cette nomination. C'était en 1987. Il y a donc une large trentaine d'années que nous n'avons pas nommé d'anciens dans notre Église. Voilà pourquoi nous proposons une réflexion sur ce sujet en trois étapes. Après un résumé de ce qui a été exposé le 1er juillet sur les termes employés, anciens, évêques, pasteurs, conducteurs, je me propose aujourd'hui d'aborder la deuxième étape en parlant des qualifications et des fonctions des anciens. La troisième étape est prévue le mercredi 19 septembre à 19h, à la réunion habituelle, avec les questions suscitées par le sujet. Je résume rapidement les têtes de chapitre, les propos essentiels de ce que nous avons vu début juillet. Et je l'introduis simplement par quelques mots du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 20 de ce livre des Actes des Apôtres, nous lisons le récit que fait l'apôtre Paul de sa dernière rencontre avec les anciens de l'église d'Éphèse. De Milet, acte 20, 17, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis comporté au milieu de vous depuis le premier jour où je suis entré en Asie. » Et pendant les premiers versets de ce discours, l'apôtre parle de son engagement et de son travail pour l'église d'Éphèse. Et je reprends la lecture au verset 25. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Et voici le texte le plus important pour le propos qui nous occupe. Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ce texte pour nous montrer déjà que que dans les termes employés, il y a au moins deux termes qui sont là mentionnés. C'est le terme d'anciens, puisque c'est eux qui sont convoqués par l'apôtre Paul, et il les appelle évêques. Ce sont deux des termes employés. Le plus répandu, c'est le terme d'ancien. C'est celui qui est le plus courant, le plus couramment utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les dirigeants des églises. Et donc à ce terme s'ajoutent principalement les termes d'évêque et de pasteur ou berger. En fait, ces termes désignent la même fonction dans ses divers aspects, celle des dirigeants de l'Église. Et les termes donc que nous employons sont équivalents. Chacun de ces termes souligne un des aspects de la fonction de l'ancien: diriger, conduire, enseigner, veiller sur la communauté, la guider. Nous y reviendrons de façon un peu plus détaillée. Et ce que nous constatons, c'est que ces termes sont tous au pluriel et que la direction de l'Église est collégiale. Nous allons maintenant aborder les qualifications de l'ancien et les fonctions de l'ancien. Mais auparavant, je termine cette introduction en disant qu'une question importante et difficile, qui ne pourrait pas être traitée dans l'exposé de ce matin, sera abordée le mercredi 19. La question est la suivante: peut-on proposer une femme pour être nommé ancien? La suite au mercredi 19 pour ce sujet. Les qualifications des anciens. Je lis avec vous quelques paragraphes qui présentent cela. Et le premier de ces paragraphes se lit dans la première épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Elle est digne de confiance, cette parole. Si quelqu'un aspire à être évêque, c'est une belle tâche qu'il désire. Aussi faut-il que l'épiscope ou l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, pondéré, de bonne tenue, hospitalier, capable d'enseigner, ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il ne soit ni querelleur ni cupide, qu'il sache bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission en toute dignité. Quelqu'un en effet qui ne saurait gouverner sa propre maison, comment prendrait-il soin d'une église de Dieu? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne tombe aveuglé par l'orgueil sous la condamnation du diable. Il faut de plus que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre en même temps que dans les filets du diable. Nous avons un autre passage qui ressemble beaucoup à celui-là et qui apporte quelques nuances supplémentaires. Je le lis dans la lettre suivante à Tite, au premier chapitre, à partir du verset 5. Voici ce que dit l'apôtre Paul à son enfant spirituel Timothée pour la charge qu'il lui a confiée. « Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu y achèves l'organisation et que tu établisses dans chaque église, dans chaque ville, des anciens suivant mes instructions. Chacun d'eux doit être irréprochable, mari d'une seule femme, avoir des enfants croyants qu'on ne puisse accuser d'inconduite ou d'insoumission. Il faut en effet que l'épiscope ou l'évêque soit irréprochable en sa qualité d'intendant de Dieu, ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains honteux. Il doit être hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, fermement attaché à la parole, digne de foi, qui est conforme à l'enseignement. Ainsi sera-t-il capable d'exhorter dans la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et puis il y a un troisième texte dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, à partir du premier verset. Première lettre de Pierre, chapitre 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le souverain berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Nous avons ici les deux textes qui se ressemblent beaucoup, de la plume de Paul et le texte de l'apôtre Pierre, qui font une description assez détaillée des qualités, des qualifications qu'on demande aux anciens. La première remarque, c'est que les qualifications spirituelles, personnelles, familiales et sociales prédominent nettement sur les qualifications propres au ministère. Les qualifications sont celles d'abord des personnes et de leurs caractéristiques avant de parler des qualifications en vue de la fonction. Mais les choses sont quand même liées. Alors si on fait une synthèse et on rassemble les éléments selon les différents aspects, nous disons que d'abord, les qualifications sont spirituelles. L'ancien doit être saint, c'est-à-dire qu'il doit rechercher la sanctification dans sa propre vie. Je remarque déjà d'emblée que cette définition n'est pas seulement propre à l'ancien, mais basiquement, c'est la définition de tout chrétien. Saint, cela signifie appartenant à Dieu. Il doit être attaché à la saine parole, attaché à l'enseignement solide et stable qui lui a été transmis. Et il faut qu'il soit lui-même stable dans sa foi et dans sa théologie. Il ne doit pas dominer le troupeau et il ne doit pas être nouveau converti. Nous avons vu les raisons dans le texte que nous avons lu. Ensuite, les qualifications personnelles. L'ancien doit être sobre, il ne doit pas être adonné au vin, modéré, modeste, il ne doit pas être attaché à l'amour de l'argent ou à un gain malhonnête. Il doit être maître de lui-même, maître de soi, pas violent ou colérique, mais pacifique et indulgent. Troisièmement, qualification familiale. L'évêque doit être mari d'une seule femme, ce qui exclut évidemment la polygamie officielle ou secrète. Il doit bien diriger sa maison, être hospitalier et tenir ses enfants dans le respect et dans la soumission. Qualification sociale. L'ancien doit avoir une bonne réputation auprès des non-chrétiens afin qu'il ne soit pas exposé au scandale et pris dans les pièges du diable. C'est pourquoi la première condition posée à l'évêque est d'être irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas lui reprocher des manquements positifs à la loi civile ou morale, ainsi qu'aux normes courante du comportement. On ne le souligne pas très souvent, mais il faut quand même le dire, pas seulement par rapport à la loi, mais aussi par rapport aux normes courantes du comportement. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Il doit être juste et impartial. Et enfin, bien sûr, les qualifications propres au ministère. L'ancien doit être capable d'enseigner, d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Parce qu'il y aura des occasions de réfuter les contradicteurs. Et vous avez même entendu dans la lecture d'Acte 20 que par rapport à ce que l'apôtre Paul prévoit pour l'église d'Éphèse, il y aura le fait que des gens viendront même au milieu de l'église d'Éphèse et essaieront de séduire les gens. Alors quand on arrive au bout de cette description rapide, on se dit, mais personne ne peut être nommé ancien. C'est un objectif tellement élevé, tellement immense. Qui est suffisant pour ces choses ? Alors, ce que je viens de dire, c'est une citation de l'apôtre Paul. Qui est suffisant pour ces choses ? Le même apôtre Paul qui a fait cette description, dans un autre contexte, a prononcé cette parole. Qui est suffisant pour ces choses ? Cet idéal est-il trop élevé ? Qui est suffisant pour ces choses ? En fait, et je l'ai déjà énoncé, nous avons ici, à part les derniers détails sur les qualifications propres au ministère, mais sur tout le reste, nous retrouvons ces éléments dans d'autres textes, en particulier dans la lettre aux Thessaloniciens, où c'est la description simplement de la vie chrétienne dans son idéal, ce qu'on appelle la marche dans la sanctification. Nous avons dit être saint, mais tous les chrétiens sont appelés à être saints et à être tout ce que l'apôtre a décrit ici. C'est donc, en fait, la réalité d'une vie chrétienne vécue le plus conformément possible à la pensée du Seigneur, à son enseignement. Et puis, après la citation de l'apôtre Paul, qui disait qui est suffisant pour ces choses, j'en ajouterai une autre, c'est que l'apôtre Paul dit lui-même, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Nous avons donc là simplement une description de ce vers quoi nous sommes tous en chemin, de ce qui doit être la recherche de tout enfant de Dieu qui veut plaire à son maître et qui veut être conforme le plus possible à la pensée de son maître. Nous sommes tous en marche, nous sommes tous en chemin et nous avons tous à avancer dans cet objectif. Et nous savons que nous pouvons compter sur celui qui a promis de marcher avec nous, qui nous enseigne, qui nous donne son esprit. Nous pouvons aussi compter les uns sur les autres dans la communauté de l'Église pour nous aider à marcher ensemble avec le Seigneur. Quelques mots maintenant sur les fonctions des anciens. Les fonctions des anciens découlent des différents noms qu'ils portent. En tant qu'anciens, ils portent, comme les anciens d'Israël et de la Grèce antique, la responsabilité de la vie communautaire, de l'assemblée. Ils dirigent l'Église et organisent l'enseignement, enseignement des adultes, des jeunes, des enfants. C'est leur charge. En tant qu'évêques, nous savons que le mot signifie surveillant. Ils ont à veiller sur les personnes et sur les différents secteurs de la vie de l'Église, sur toutes les questions qui concernent la construction, peut-être matérielle, mais surtout spirituelle, de l'édifice de Dieu, son administration, son fonctionnement, les divers services dans le corps de Christ. En tant que guide ou conducteur, ils ont à marcher devant le troupeau, à débroussailler le terrain, à explorer les chemins, à servir de modèle à ceux qui les suivent. Ils ont à marcher devant. Ils sont les guides et les conducteurs. Ils sont aussi les économes de Dieu. On trouve cette expression dans la lettre de Tite. Toutes les questions concernant l'orientation générale de l'Église, la doctrine, l'expansion, l'évangélisation, la construction, les finances, tout ça relève du conseil des anciens. Et nous avons vu dans ce texte d'Acte 20, de façon explicite, mais nous le voyons aussi dans les autres églises, la direction collégiale de l'Église par les anciens, puisque la charge des apôtres, c'est bien lorsque Paul et Silas, et puis Paul et Barnabas d'abord, et puis Paul et Silas après, ont fait leur voyage missionnaire, leur tournée d'évangélisation, et qu'ils sont ensuite retournés ou qu'ils ont pensé aux églises qu'ils avaient fondées, ils ont envoyé des responsables pour nommer ou faire nommer des anciens dans chaque église, pour une direction collégiale de l'église, chacun contribuant à la marche de l'ensemble selon ses dons particuliers. Car en effet, dans la description des dons et des qualifications pour le ministère, il n'y a pas un seul modèle ou il n'y a pas un seul profil d'anciens. Chaque ancien a des qualifications qui lui sont propres, en plus des qualifications générales qu'il partage avec les autres, et chacun est appelé à exercer les dons que Dieu lui a donnés selon ce que le Seigneur lui a accordé. Et puis en tant que berger, ils doivent paître le troupeau, c'est-à-dire nourrir les brebis, les conduire, comme dit le psaume 25, dans les verts pâturages, les conduire près des eaux paisibles, psaume 23 plutôt, pour que le troupeau soit bien nourri et bien désaltéré. Et aussi pour marcher devant lui, et aussi pour le garder des dangers qui le menacent. Nous connaissons tous, je pense, ce chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, où l'évangéliste parle du bon berger et du soin qu'il prend pour les brebis et de la différence qu'il y a entre le bon berger et le mercenaire qui ne se met pas en peine pour les brebis. Le bon berger prend soin des brebis et même de celles qui étaient égarées, et il prend soin du troupeau. Il le nourrit. Il le nourrit par un enseignement approprié. Il prend soin des brebis, en particulier de celles qui sont les plus faibles ou qui sont malades ou qui sont blessées. Et puis, il doit aussi, dans cette connaissance qu'il a de la sainte doctrine, réfuter les contradicteurs et ramener dans le droit chemin de la vérité orthodoxe, de la vérité droite, ceux qui enseignent des choses qui ne sont pas conformes à l'enseignement du Seigneur. Nous savons que dans toute l'histoire du Nouveau Testament et dans toutes les lettres que les apôtres ont écrites dans les églises, il y a une bonne partie de mise au point et de redressement par rapport à certaines torsions qui ont été apportées dans un certain nombre d'églises. Voilà pour les éléments essentiels qui étaient les qualifications et les fonctions des anciens. Quelques mots encore. Un mot sur la rétribution. Depuis le début, certains anciens étaient rétribués pour leur ministère d'enseignement qu'ils accomplissaient soit à mi-temps, soit à plein temps. Nous savons que l'apôtre Paul lui-même est un bon exemple, puisque à certains moments, il a exercé un métier pour subvenir à ses besoins. Il était faiseur de tentes. Et puis à d'autres moments, lorsqu'il a pu être soutenu matériellement par les églises, il s'est consacré entièrement à son travail d'enseignement et d'évangélisation. Et nous avons des textes qui disent explicitement, Galates 6:6, que celui qui reçoit l'enseignement de la parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l'instruit. Le Seigneur a ordonné, en Corinthiens 9:14, à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et il y a même un texte dans 1 Timothée 5 qui dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honoraire. C'est souvent traduit par double honneur, mais vu le contexte, c'est probablement d'un double honoraire qu'il faut parler. Un double honoraire, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà quelques éléments concernant cette question de la rétribution. Mais les textes que nous avons cités, je le redis encore une fois, montrent aussi que tous les anciens ne s'occupent pas de tout et n'ont pas les mêmes fonctions, puisque là, dans le dernier texte que nous venons de citer, il y a une distinction qui est faite pour souligner ceux qui, en plus de bien diriger, se consacrent à l'enseignement. Ce sont eux qui sont qualifiés pour cela. D'autres peuvent être plus qualifiés pour d'autres aspects, comme la relation d'aide, la relation d'accompagnement. D'autres peuvent aussi être plus spécialement doués pour l'organisation, pour le gouvernement, d'autres pour l'évangélisation. On pourrait donner d'autres éléments spécifiques de dons attribués. Et puis avec cela, nous arrivons à la dernière partie, au dernier aspect de ce que je souhaite partager avec vous ce matin. C'est le fait que, au départ, c'est Dieu lui-même, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui choisit et établit les anciens dans leur ministère. Nous avons plusieurs textes qui nous le disent de façon très claire et explicite. Il y a en particulier le texte d'Éphésiens 4, où il nous est dit que Jésus a donné à l'Église, a fait des dons à l'Église, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement de tous ceux qui appartiennent à Dieu, et pour mettre tous les chrétiens en état d'accomplir chacun leur ministère de témoins, d'évangélistes, de témoins de la grâce de Dieu, et de dire à tous la beauté de l'Évangile. C'est Dieu qui donne, c'est Jésus qui donne, c'est lui qui accorde les grâces de service et qui met dans le cœur l'empressement et le zèle pour se dévouer au service des chrétiens. Nous avons bien des textes qui nous le disent de façon très claire. Donc celui qui sent en lui ce désir de servir et qui prend conscience des dons reçus, cherche tout naturellement à mettre ses dons au service des autres. C'est pour cela que tout à l'heure, J'ai employé un mot pour désigner l'ancien actuel. J'ai dit, je suis actuellement le seul ancien officiel. Mais c'était pour préparer le fait que nous avons certainement, j'espère, dans notre Église, des personnes qui accomplissent des éléments de la charge de l'ancien, sans hésiter. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Et ce fait doit tout naturellement nous amener à réfléchir, et nous continuerons de le faire, lorsque la question se posera de savoir si nous pouvons nommer des anciens dans notre Église. Chacun cherche tout naturellement à mettre ses dons au service des autres. Il en résulte diverses opérations, diverses actions qui n'ont pas échappé aux membres de l'Église, aux chrétiens qui sont là, qui sont appelés à reconnaître les dons que le Seigneur a fait à tel ou tel pour les exercer au bénéfice de l'édification commune de l'Église. Ainsi donc, l'Église prendra à son tour conscience des dons qui lui ont été faits en la personne de ces chrétiens qui sont doués par le Seigneur de certains aspects pour accomplir un ministère d'édification, d'accompagnement, d'enseignement au sein de l'Église. Voilà donc les grandes lignes de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Nous aurons l'occasion donc de revenir là-dessus lorsque nous aborderons les questions qui se posent et celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Nous voulons prier le Seigneur et continuer à le faire parce que nous avons déjà fait pour qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise en tant qu'Église dans le discernement des dons et qui nous conduisent dans cette recherche pour les anciens de l'Église. Amen.